Samedi 14 mai pour l'édition annuelle de la Nuit européenne des musées, à Quinçon, l'entrée du musée départemental de préhistoire des Gorges du Verdon sera gratuite de 19h à 22h, l'occasion de visiter librement les trois collections temporaires en cours et la collection permanente. De même, le tout nouveau Préhistocyte fera l'objet d'une visite guidée à partir de 20h30. Caroline Luzy, responsable de l'unité scientifique et médiation au musée de préhistoire, présente le programme de cette nocturne, les expositions actuelles et évoque plus en détail la réalisation du nouvel espace dédié à la présentation des différents habitats sur une période de près de 400 000 ans dans un environnement végétalisé et installé à présent sur 2 hectares près du musée, le Préhistocyte. Caroline Luzy, ce week-end, c'est la Nuit européenne des musées. À Quinçon, au musée de préhistoire, que va-t-il se passer ?
Alors, comme chaque année pour cet événement, l'entrée du musée est gratuite de 19h à 22h. Donc, l'occasion de découvrir les collections un peu en soirée, voire en nuitée. Et cette année, pour proposer au public une découverte un peu insolite de notre nouvel équipement, donc le Préhistocyte des Gorges du Verdon, qui sera proposé au public une déambulation tout aussi nocturne à partir de 20h30. Il faut quand même penser à réserver une place à l'avance parce qu'on espère et on redoute à la fois que le Préhistocyte attise un peu la curiosité et la convoitise des visiteurs. Donc il conviendra de réserver sa place par téléphone au 04 92 74 09 59. Ça sera l'occasion de passer en revue un peu ces différents habitats qui constituent ce nouvel équipement par rapport à l'ancien espace qui était lui-même doté de prototypes d'habitats préhistoriques. Là, on a mis l'accent sur la donnée archéologique en restituant certains des habitats dans leur dimensionnement. Il y en a 6 de ces habitats et je devrais dire des bâtis parce qu'il y a 5 habitats qui correspondent à différentes périodes. Et aussi un monument funéraire, le dolmen. Cette visite nocturne sera l'occasion de remonter le temps jusqu'à une Provence chaude comme aujourd'hui, mais surtout beaucoup plus humide. On se transportera sur le site de Terra Mata et on est au paléolithique inférieur à ce moment-là. Et on remontera le temps jusqu'à l'âge du bronze, en passant en revue successivement différentes architectures en bois, en terre et paille mélangée, donc en torchis, puis en terre crue avec la maison de l'âge du bronze. L'occasion de passer plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution de l'habitat en revue.
En termes d'années, justement, ça représente quelle datation à peu près ?
400 000 ans pour le site de Terra Amata, on va dire 20 000 ans pour les tipis de Pincevent, 4 000 ans pour la maison néolithique dite Charavine, du nom du site où elle a été mise au jour. Ensuite, on passera à la maison Cambous, 2005, avant. Là, on est vraiment à la fin du néolithique avec les premières productions métalliques, en l'occurrence en cuivre. Et la visite se termine avec l'habitat de l'âge du bronze, lui, vers 1000 avant, en Vaucluse. Ça, c'est une nouveauté par rapport à notre ancien espace, le village préhistorique. C'est la fameuse maison en terre crue du site de La Prade, donc un site vauclusien. Et en marge ou en plus de ces habitats, le dolmen de type provençal, là, qui a été vraiment restitué dans des dimensions très très proches de l'existant, avec notamment un couloir d'allée et une chambre funéraire d'un mètre par un mètre, le tout recouvert d'un grand tumulus.
Très impressionnant d'ailleurs comme édifice.
Oui, et probablement que dès la préhistoire, la monumentalité de ces tombes, donc. En Provence, elles sont à la fin du néolithique collective, c'est-à-dire que le caveau accueille successivement les membres de plusieurs communautés dans des dépôts simples ou à plusieurs individus. C'est le nom qu'on donne quand on est anthropologue au nombre de corps, l'individu. Cette dimension, cette visibilité du monument probablement qu'elle servait à marquer l'empreinte d'un groupe sur un territoire, notamment dans les Hautes-Alpes et puis même pas trop loin d'ici, dans le Haut-Verdon, ou à commencer par aux alentours de Castellane. Il y a plusieurs dolmens dont on suspecte qu'ils sont tous installés un peu à la même hauteur, à proximité de cols, et qu'ils avaient sûrement une fonction qui était commune et une complémentarité dans le temps d'un site à l'autre, et probablement qu'un site devait renvoyer aussi à un autre, parce que cette monumentalité, encore une fois, elle est là pour rendre vraiment le monument visible, hein. Les chambres funéraires font moins d'un mètre carré et le diamètre peut atteindre 7, 8 à 10 mètres, le diamètre du tumulus. Donc on est devant des constructions qui sont magistrales. Alors certes, elles sont faites aussi pour durer, dès le temps de la préhistoire, hein, parce qu'on sait que certains de ces caveaux ont eu un fonctionnement multiséculaire. On considère que dès la fin de la préhistoire ou même dès la fin de l'âge des métaux, petit à petit, ils vont être vidés de leurs occupants, reconvertis et parfois démontés, et on trouve des éléments d'architecture dans l'habitat postérieur.
On a une idée de la date de ces premières édifications de dolmen ou pas du tout, une fourchette ?
Oui, il y a une fourchette. Alors, il y a un phénomène qui n'est pas propre hein, à la Provence, un phénomène qui est méditerranéen vers 4005 avec les îles de Malte. Et en fait, il faut intégrer ce qu'on appelle le mégalithisme. Les représentants les plus connus, hein, ça va être le dolmen et le menhir. La différence entre les deux, le dolmen, c'est le caveau construit avec des dalles monumentales, dont une à l'horizontale. Et il reste souvent dans le paysage que ces édifices en forme de la lettre Pi, deux dalles verticales coiffées d'une dalle horizontale, à distinguer donc ces dolmens du men, c'est le même radical du mot breton qui veut dire table, menhir, c'est la dalle dressée, donc c'est les alignements de Carnac par exemple. Donc il y a un phénomène méditerranéen vers 4005 et il y en a un autre simultané sur la façade atlantique qui lui est plus strictement funéraire dans ce mouvement dit mégalithique qui gagne la Provence un petit peu plus tardivement. Et à la différence de la façade atlantique où certains de ces dolmens sont des caveaux, on va dire d'élite ou de personnes distinguées du reste du groupe, ça on peut le déduire des offrandes qui accompagnent le corps. Donc à la différence de la façade atlantique où la tombe est dite princière, en Provence on a plutôt des sépultures collectives qui fonctionnent sûrement avec plusieurs villages environnants, à moins que plusieurs dolmens servent successivement aux différentes générations des populations qui sont installées sur un territoire donné. Ça fait des modalités un peu complexes au niveau des rites funéraires, mais ça fait partie finalement de la diversité des comportements humains qu'on observe tout au long de la préhistoire.
Parler de cette image que l'on a tous en tête des dolmens en forme de pie, mais c'est-à-dire qu'en fait c'est juste ce qui reste du monument entier, c'est juste la partie centrale.
En fait, ça peut être la partie centrale, effectivement, et très souvent, avec le temps, le tumulus s'est affaissé, l'ensemble du monument a été recouvert, donc il n'a plus la hauteur initiale, et on le devine dans le paysage par des monticules et parfois par des vestiges de l'architecture en pierre. Mais parfois, sur un sol qui est le sol de fonctionnement de l'époque, il subsiste deux dalles verticales et une dalle horizontale qui correspondent soit à l'entrée du couloir, parce que tous les modèles architecturaux sont pas les mêmes pour les dolmens, mais en Haute-Provence et notamment dans le Var, le modèle de dolmen dit varois, c'est un couloir d'un mètre ou deux qui précède une chambre funéraire d'un mètre par un mètre. Parfois le couloir est beaucoup plus long, parfois il n'y en a pas. Mais ce qui subsiste donc en forme de pie, c'est soit les dalles de couverture et les dalles latérales du couloir qui mènent à la chambre, soit les deux dalles qui supportaient la dalle de couverture de la chambre funéraire elle-même. En fait, probablement, comme je disais tout à l'heure, dans une occupation qui est postérieure au néolithique, ces monuments sont démontés pour récupération des pierres. Et à partir du moment où le mur de circonférence ne contient plus le tumulus, hein, qui est un mélange de terre et de pierre, le monument s'affaisse. Puis à différentes périodes, on peut penser dès l'Antiquité. Et puis aussi avec le mouvement de christianisation qui va détruire aussi tous les restes païens dans le paysage, ces monuments, au cours de différents épisodes historiques ou culturels, sont démontés ou partiellement détruits. Et le temps fait son œuvre pour tous ceux qui seraient restés en place. Et parfois, il le fait tellement bien qu'ils finissent par être dissimulés. Et là, ça laisse la place au rêve et la possibilité toujours de pouvoir en découvrir un qui soit intact et qui n'ait été pillé ni au cours de l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, ni au 19e, au moment où on se rend compte de la richesse à la fois scientifique et documentaire, mais de la richesse matérielle de ce qu'ils contiennent, notamment de très nombreux éléments de parure. Ça fait partie du mobilier le plus fréquent qu'on trouve dans ces dolmens. Donc des perles en différentes roches, en coquilles, des pendeloques façonnées sur des restes osseux d'animaux. Et puis, selon les endroits où on se situe, des pierres d'importation. Hein, je pense notamment à une pierre qui a une couleur un peu turquoise, dont on a longtemps pensé qu'elle était originaire de la Bretagne, mais qui en fait est originaire de différentes mines qui se trouvent dans le nord de l'Espagne.
La véritable joaillerie.
Oui, c'est ça. C'est pas de la pierre taillée en biseau ou facetée comme on peut l'imaginer avec des pierres précieuses ou semi-précieuses comme aujourd'hui, mais c'est très souvent un polissage de petits éléments circulaires qui sont percés, donc à l'aide de perçoirs en silex. C'est quand même énormément d'heures et aussi une technicité certaine pour arriver à vraiment à formater des perles circulaires qui étaient ensuite enfilées sur des liens végétaux ou sur des tendons d'animaux. Il y a aussi des perles en cuivre. Alors l'âge du cuivre, en gros, c'est la fin de la préhistoire entre 2005 et 2000 avant. C'est vraiment la phase ultime de la préhistoire et c'est sûrement aussi la phase ultime de fonctionnement de ces monuments pour leur insertion dans un univers néolithique. C'est-à-dire qu'après, ils ont peut-être continué à servir comme sépulture au temps de l'âge dit des métaux, notamment de l'âge du bronze, mais ils sont probablement déconnectés de la valeur symbolique qu'on leur donne dans la période précédente.
Ce préhistocyte est visitable à tout moment. Est-ce que c'est en entrée libre? Est-ce qu'il faut passer par le musée? Comment ça se passe?
Ah non, pas du tout. L'espace a été voulu vraiment comme d'accès libre toute l'année, 365 jours sur 365. Son accessibilité est complètement indépendante des heures et des périodes d'ouverture du musée, puisque là, c'est en permanence et l'accès est totalement gratuit. Pour ce faire, il a été équipé de panneaux. Deux séries de panneaux, une série de panneaux vraiment qui fait une focale sur le modèle archéologique qui a inspiré la reconstitution du bâti, et une deuxième série de panneaux qui, elle, met l'accent sur la manière dont les préhistoriques, à différentes périodes, ont exploité, outre pour l'habitat, les matériaux naturels qu'ils avaient à leur disposition. Donc on a inséré dedans, pêle-mêle, hein, la terre, la ressource métallique, le cuivre notamment, le bois. Il y a une petite focale aussi sur les fibres. On a à ce jour des restes des fibres les plus anciennes. Il s'agit de fibres végétales qui remontent à près de 40 000 ans, c'est-à-dire à Néandertal, à un moment où il va pas tarder à avoir arrivé en territoire européen, nos ancêtres directs que sont les Homo sapiens.
On pourrait ajouter que concernant le préhistocyte, il sert également pour les animations du musée.
Alors le préhistocyte des Gorges de Verdon, il a presque un sous-titre qui est « Espace de médiation et d'interprétation préhistorique ». C'est effectivement un espace qui sert de cadre à toute la proposition d'animation différentes publics. Ça va du public scolaire jusqu'au groupe familial ou d'amis ou qui se constitue pour des programmes d'animation de type le feu, le tir à l'arc et la découverte de la taille du silex. Avec ce préhistocyte, on reprend l'idée d'un cadre qui permet aux visiteurs vraiment une immersion dans la préhistoire. Donc en plus de l'habitat, il y a évidemment un gros projet végétale dans cet espace qui donnera probablement sa pleine mesure que dans les années à venir. Mais il y a un essai de reconstitution ou au moins d'évocation des paysages qui environnait chacune des constructions, puisque entre 400 000 ans avant Jésus-Christ et quasiment 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a plusieurs modifications et variations climatiques, des phases chaudes, des phases froides, qui s'accompagnent inévitablement d'un changement du couvert végétal et forestier quand il y en avait. Donc dans cet espace, il y a à la fois l'habitat et ces évocations paysagères qui ont été pensées vraiment pour que, au moment des animations, en plus de l'environnement, on ajoute le geste et il manquerait plus que la parole pour qu'on soit des vrais préhistoriques.
Combien d'essences et de plantes et d'arbres environ ?
Oula, plusieurs dizaines par petites touches, hein, c'est débosqué. C'est très compliqué, surtout aujourd'hui et en climat méditerranéen, de prétendre pouvoir reconstituer un paysage des environnements glaciaires ou de reconstituer la forêt de feuillus très riche, un peu comme on la voit en la forêt primaire telle qu'on peut la découvrir à la Sainte-Baume aujourd'hui, par exemple, sur les pentes de la Sainte-Baume. Donc c'est difficile de reconstituer cet espace-là sur une parcelle qui était jusque-là agricole, totalement nue. Donc il y a aussi un effort de végétalisation avec des espèces méditerranéennes actuelles qui, elles, ne portent aucun autre discours que d'être là pour agrémenter l'espace et rendre la visite agréable à l'œil et plaisante.
Parlons du musée. Quelles sont les expositions que l'on pourra voir ce week-end ?
Vu l'année Covid, si je puis dire, qu'on vient de passer, et le musée n'ayant réouvert qu'en mai 2021, on a fait le choix de prolonger la présentation de l'exposition qui nous vient du musée départemental de Solutré, donc en Saône-et-Loire. Exposition intitulée « Bienvenue chez les préhistos », qui est une proposition un peu fantasque, un peu décalée de découverte dans un habitat récent, qui est un petit peu typé années 50-60. Un savant mélange entre les objets d'aujourd'hui et ceux qui faisaient le quotidien des préhistoriques. Et tout ça dans un aller-retour non dénué d'humour. Tout ça s'est servi par une scénographie qui est pleine de clins d'œil. Et vu le succès qu'elle a remporté cette année, donc on l'a prolongé. Et de la même manière qu'on a prolongé une exposition, une rétrospective de quelques créations artistiques qui avaient été réalisées entre 2006 et 2010, je pense, ou 2008, dans le cadre de l'Art de mai, c'est-à-dire une manifestation départementale qui précédait la Nuit des musées. Donc, on a maintenu aussi cette petite présentation d'une sélection d'œuvres réalisées et inspirées par le musée et ses collections, donc par des artistes sinon locaux, du moins régionaux. Et la troisième expo qu'on peut découvrir jusqu'à la fin du mois de mai, c'est l'exposition qui consacre les 10 ans d'activité du service départemental d'archéologie, qui présente en quelques vitrines et quelques panneaux quelques-unes des découvertes phares qui permettent, de la préhistoire à l'époque la plus récente, de compléter quelques pages de l'histoire du territoire des Alpes d'Haute-Provence.
On rappellera brièvement la collection permanente du musée.
Oui, qui couvre plus d'un million d'années. Collection, enfin des collections, puisqu'en gros, il y a plusieurs dizaines de sites qui ont été sondés et fouillés au moment de la mise en eau des barrages, hein, et qui sont à l'origine de la constitution des collections. Et là, on parcourt les gorges du Verdon, mais pas seulement, du paléolithique le plus ancien, donc avec la bonbonne, avec les pièces trouvées à la bonbonne, jusqu'à finalement ce qui a été trouvé, passé le néolithique et l'âge des métaux, jusqu'au 17e en termes de céramique vernissée, voilà, dans les grottes qui jalonnent le cours du Verdon, notamment depuis le débouché du Verdon, du lac de Sainte-Croix, de l'ancienne plaine de Sainte-Croix, qui parcourt les moyennes puis basses gorges du Verdon jusqu'à Esparron. Ce qui est présenté dans le musée essentiellement provient des cavités qui se trouvaient sur le cours de Verdon entre ces deux points repères aujourd'hui que sont le lac de Sainte-Croix et le lac d'Esparron.
Donc Caroline, toutes les informations pour cette manifestation, et évidemment pour les activités du musée, sur le site ?
Sur le site internet du musée, et puis en ligne directe, c'est peut-être plus sûr, plus direct, 04 92 74 09 59. L'équipe de la réservation se fera un plaisir de recueillir vos noms et coordonnées pour les différentes offres d'animation qu'on a à vous proposer.
Et si l'on est curieux, l'adresse du site ?
www.musépréhistoire.com, musée préhistoire tout attaché en minuscules et sans accent.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne nuit.
Merci. Merci.